minutes. On peut applaudir pour leur montrer qu'on est bien là dans la salle. Super. Je vous invite à vous lever. Aujourd'hui, c'est un jour de joie parce qu'un nouveau jour se lève ici, sur la planète Epi. Et j'aimerais, avec notre équipe, vous encourager à déclarer que Jésus est l'auteur de ma joie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Est-ce que Jésus est l'auteur de ma joie? Ouais, super. Je vous invite à le déclarer en chanson. Vous êtes prêts?
Jésus, tu es suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu, mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi.
Tous ensemble,
il m'a libéré, ma tête est. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. suis à lui.
Alléluia. Merci Seigneur, parce que je sais qui je suis. Je suis ton enfant, nous sommes tes enfants. Tu viens nous couvrir de ta grâce chaque jour. Seigneur, merci, parce que tu es à côté de nous, à droite, à gauche, devant, derrière. Tu nous couvres de bonté, tu nous couvres de ta puissance, Seigneur, au quotidien. Et nous avons peur de rien. Nous pouvons dire que tu es notre Dieu. Je veux te laisser toute la gloire, toute l'autorité, à chaque instant de ma vie. Oui, je ne tremblerai devant rien. Je ne tremble pas devant mes ennemis, parce que tu combats pour moi. Tu combats pour moi. Tu combats pour nous au quotidien. Tu combats au travers de nos souffrances, au travers de l'épreuve. Tu es là. Tu aiguises notre arme. Et tu vas devant nous au combat. Alléluia. Je veux te rendre gloire ce matin pour cela. Et proclamer que je ne tremblerai pas devant mes ennemis.
Thank you.
Maintenant, vous pouvez tout déposer à la croix. Mais je vais quand même introduire ce moment où nous sommes devant la croix, où nous sommes devant le roi des rois, le Dieu, le roi des rois, le Dieu tout-puissant qui combat pour vous, qui combat pour nous. Et il dit dans sa parole dans psaume 27, c'est un psaume de David qui dit « Le Seigneur est ma lumière, il me sauve, je n'ai peur de personne. » Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Quand des gens mauvais s'avancent pour me détruire, ce sont eux, mes ennemis féroces, qui perdent l'équilibre et qui tombent. Si une armée se prépare à m'attaquer, je n'ai pas peur. Même si on me fait la guerre, je garde confiance. Je garde confiance, il est marqué, je garde confiance. Qu'importe ce que vous vivez, c'est important. Dieu le sait, oui. Mais gardez confiance en Dieu, gardez confiance en Dieu. Il combat pour nous, il combat chaque jour, il est là. Prenez ce temps.
Thank you. Il y a des notions qui ont été dites dans ces chants et peut-être que certains ne les vivent pas réellement. Et ce matin, on est ensemble, on est une famille. On ne se connaît peut-être pas les uns les autres, qui est à notre droite, qui est à notre gauche, mais vraiment symboliquement, posez la main sur votre voisin à côté. Priez pour celui qui est à côté de vous. Vraiment louez ensemble, adorez ensemble notre roi des rois. Dites-lui merci, merci parce que je vis. Oui, c'est vrai, ça m'arrive. Il y a des moments où je tombe, il y a des moments où je suis fatiguée, il y a des moments où je ne suis plus là, il y a des moments où je ne connais pas. Mais on est là, là, ce matin, ensemble, pour louer, pour adorer notre Dieu ensemble, pour prendre la victoire dans la louange, dans l'adoration, dans la reconnaissance que notre Dieu est puissant. On a le Dieu de l'impossible qui a donné son Fils unique à la croix pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions ne plus trembler, mais que nous puissions aller de l'avant. Alors prions ce matin ensemble. Vraiment, Seigneur, nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer, Seigneur mon Dieu. Et j'ose dire, Père éternel, merci. Merci parfois pour les épreuves, Seigneur. Merci pour les difficultés parce qu'elles me permettent, Seigneur, de m'accrocher à toi. Elles me permettent, Seigneur mon Dieu, de venir à la croix. Et c'est vrai, de trembler, de plier le genou, Seigneur, devant la croix. Ce matin, nous sommes là, ensemble devant toi, Père éternel, avec nos imperfections, avec peut-être nos fardeaux aussi. Mais on ne veut pas s'empêcher de te dire merci. On ne veut pas s'empêcher de te dire que tu es puissant. On ne veut pas s'empêcher de te remercier pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui nous sauve, qui nous libère, Seigneur. Merci pour tes encouragements. Merci, Seigneur, parce que tu es jour après jour à nos côtés. Tu ne nous abandonnes jamais. Ta parole dit que tu es fidèle, Seigneur.
Sur nos vies, Jésus. On va te rendre gloire encore, louange au Père. On va dire ensemble encore en chantant, louange au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Alléluia.
Amen. Moi, j'aurais continué, hein, pas vous ? Amen. Ah, c'est bon d'entendre qu'il y en a, ils sont d'accord. On est bien dans la présence de Dieu et vraiment, on peut encore les encourager, l'équipe de louanges, les remercier de ces temps. C'est des canaux de bénédiction pour vivre des temps bons dans la louange et l'adoration tous ensemble. Alors encore bienvenue à tous, bienvenue encore à nos internautes. J'espère que vous allez bien. Et on va continuer ces temps et je vais vous apporter quelques annonces. La toute première, c'est que j'espère que vous aimez vivre les dimanches matins ici. J'espère que vous aimez vivre les dimanches matins. Là, c'est un peu plus fort. Je ne sais pas comment vous allez là-bas, mais... L'église, ce n'est pas que le dimanche matin. L'église, ce n'est pas que de 10h à 11h30. C'est toute la semaine, c'est tous les jours, oui. Et l'église offre aussi des temps où vous pouvez vous rencontrer selon l'âge que vous avez. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce matin, il y a les enfants qui sont en bas avec les ados, avec les between. Ils ont un enseignement, mais dans la semaine, vous pouvez rejoindre des groupes. Je ne vous dirai pas lesquels. L'église offre aussi des formations pour grandir dans notre foi. L'église est présente toute la semaine. Alors, je vous invite vraiment à aller au point accueil pour chercher toutes ces informations et dire « Oui, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe. » Allez-y. D'accord ? Allez un peu leur dire bonjour aussi. Ils s'ennuient, je pense. Je pense pas. Et une autre petite annonce, c'est qu'il va avoir l'affiche l'association Enjeu, l'association culturelle de l'EPI, va organiser une collecte de produits d'hygiène pour offrir un Noël à des personnes défavorisées. Donc la récolte se fera les dimanches 10 et 17 décembre. Là aussi, je ne vais pas détailler tout ce qu'on souhaite collecter. Vous allez au point accueil, il y a un flyer pour vous où il y a tout écrit dessus. Et enfin, vous savez depuis quelques temps que chaque dimanche après nos célébrations, nous avons un temps écoute et prière près du micro. Si le message vous a interpellé, s'il y a quelque chose qui vous a travaillé durant cette semaine, ne restez pas seul. Venez, partagez votre fardeau. Des personnes seront là pour vous écouter et pour prier avec vous. C'est une bonne chose, ça. Ensemble. Amen. Amen. Mais je vais inviter notre cher Jérôme. Vous voulez bien qu'on prie pour lui ?
Amen.
Amen. Seigneur, c'est vraiment une joie ce matin de pouvoir... entendre encore ta parole, le message que tu as déposé sur le cœur de Jérôme. Et je te prie vraiment, Seigneur mon Dieu, vraiment de le remplir de ton esprit encore ce matin. Je te prie, Seigneur, que nos oreilles soient ouvertes, nos cœurs soient ouverts, afin encore d'être enseignés, encouragés, réconfortés. Merci pour tout, mon Dieu. À toi soit toute la gloire, Père. Amen.
Amen. Merci. Vous allez bien ? Combien sont heureux d'avoir une équipe de louanges qui nous emmène toujours à adorer notre Sauveur ? De manière aussi avec l'excellence, la modernité. Ouais.
Amen.
Yes. Très heureux d'être avec vous ce matin pour aborder une question, je pense, qui nous angoisse tous, surtout aujourd'hui. Qui suis-je ? Une des questions les plus à la mode, surtout aujourd'hui dans les changements sociétals qu'il y a, où on se définit par toutes sortes de choses. Mais en même temps, une des questions les plus angoissantes qui vient vraiment nous chercher. Pourquoi ? Parce qu'on répond tous à cette question, peu importe la génération qu'on est, on répond tous à cette question de manière consciente ou inconsciente, de manière choisie ou de manière où on nous l'a imposée. Peu importe. Et même si tu dis « je ne me suis jamais posé cette question-là », en fait, cette question, tu y réponds à chaque jour, dans la façon dont tu vas t'habiller, dans ton comportement, dans tout ce que tu vas regarder, dans tes pensées. On répond à cette question. Pourquoi ? Parce que c'est primordial pour l'être humain de répondre à cette question. Qui suis-je ? C'est quoi mon identité ? C'est quoi ma valeur ? Théologien qui s'appelle Bruce Waltke, qui est un des plus grands théologiens de l'Ancien Testament, qui a dit la chose suivante. L'identité est composée de deux choses, la mémoire et la destinée. Et Dieu va utiliser justement cette pédagogie dans la Genèse, dans les premiers chapitres de la Genèse. Il va utiliser la mémoire pour rappeler à son peuple, mais aussi à l'humanité entière, quelle est sa première identité, quelle est son identité fondamentale, primaire. Mais avant de rentrer dans la Genèse, c'est très particulier la Genèse, surtout les 11 premiers chapitres. Quelques petits détails sur le contexte. Les chapitres 1 à 11 sont dans une approche qu'on appelle littéraire. Okay ? Ce qui veut dire qu'il ne faut pas prendre tout chronologiquement. Ce qui veut dire que l'approche littéraire, comme l'Apocalypse d'ailleurs, et comme certaines visions de Daniel, il faut prendre ça comme des images que les gens connaissaient de l'époque pour amener un message théologique puissant derrière. D'ailleurs, les théologiens sont d'accord pour dire que Genèse 1 à Genèse 11 recouvrent un temps beaucoup plus long que tout le reste de la Bible. Certainement des dizaines de milliers d'années. Et là, peut-être que tu avais une approche littérale, mais en disant que la Terre a 6000 ans. Mais en tout cas, les meilleurs théologiens disent le contraire. Ils disent non, Genèse 1, Genèse 11, une approche littéraire qui envoie un message particulier, qui n'explique pas le comment. Ce n'est pas un livre scientifique, ce n'est pas des chapitres scientifiques. C'est des chapitres qui amènent des pourquoi à notre existence, des pourquoi à l'existence de Dieu, des pourquoi à la création de la Terre. Donc la chronologie, ce n'est pas la chose la plus importante. Ici, c'est le message théologique derrière. Deuxièmement, c'est Moïse qui a écrit. Moïse a écrit la Genèse, d'ailleurs a écrit les 5 premiers livres de la Bible, sauf la partie où il meurt. Ce serait bizarre qu'il écrive à la fin de Deutéronome quand c'est lui qui est mort, on est d'accord avec ça? Donc certainement que des scribes étaient là pour prendre sa place, peut-être Josué ou peut-être d'autres. Mais en tout cas, la Genèse, les théologiens sont d'accord pour dire que c'est Moïse qui a écrit. Moïse a écrit la Genèse, sachant que c'est un temps qu'il ne l'a pas vécu. Quand est-ce qu'il l'a écrit? Il l'a écrit quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, d'esclavage, et quand il s'en allait vers Canaan, en Mésopotamie. Et dans ces lieux-là, à cette époque-là, c'était des endroits, que ce soit l'Égypte ou la Mésopotamie, remplis de mythologie. Énormément de mythologie. Puis aujourd'hui, quand on entend mythologie, on pense à des légendes. On pense aux dieux grecs, on pense bref, à toutes les mythologies, tous les films qui sont sortis là-dessus. Et on pense à des choses qui sont fausses, forcément. Parce qu'on se dit, non, c'est des civilisations qui avaient inventé ça pour trouver un but à leur existence, etc. Sauf qu'à cette époque-là, la mythologie avait le même rôle que la science aujourd'hui. On se basait sur la mythologie pour expliquer comment la Terre était créée. On se basait sur la mythologie pour comprendre qui on était, pour comprendre qui était Dieu, pour comprendre quelle valeur on avait. Donc pour bien comprendre à quel point la Genèse est révolutionnaire concernant notre identité, il faut comprendre qu'est-ce que les gens croyaient à cette époque-là à travers les mythologies. Et le peuple de Dieu, forcément, 430 ans en esclavage en Égypte, ce qui correspond à 14 ou 15 générations qui sont nées esclaves et qui sont morts esclaves. C'est fou. Certainement que ces personnes-là ont dû commencer à croire ces mythologies et en faire leur croyance, à mettre leur foi en eux. Et voici quelques détails justement sur ces mythologies qui sont très importantes à se rappeler. Premièrement, une mythologie égyptienne racontait que les dieux s'étaient divisés. Il y avait plusieurs dieux, okay, c'était que des mythologies polythéistes, plusieurs dieux. La Bible, c'est la première religion monothéiste de l'époque. Et il y avait plusieurs dieux qui se sont divisés, un peu comme dans les films. Je ne sais pas si vous avez déjà vu L'Attaque des Titans ou Percy Jackson. Bref, c'est toujours des dieux qui sont en conflit les uns contre les autres. Et il y a eu une bagarre entre deux dieux. Et il y en a un qui est mort. Et avec son corps, on a créé la terre. Voici ce qu'on croyait. Et on a pris son sang, qu'on a mélangé à la poussière, et on a créé l'humanité. Voici ce qu'on pensait. Dans une autre mythologie, on croyait que les êtres humains ont été créés pour être des esclaves aux dieux inférieurs et qui apaisaient leur humeur en les nourrissant. Voici l'image qu'on avait de l'être humain, très très néfaste, très très rabaissante. Et troisièmement, seuls les pharaons ou certains rois avaient de la valeur et étaient même divinisés. Donc il y avait deux possibilités. Soit tu étais un roi, un pharaon, puis là on te considère comme un dieu, soit tu étais autre chose et là tu étais considéré comme rien du tout. Maintenant regardons ce que la Genèse va dire, et juste un rappel, l'identité est composée de deux choses, comme on l'a vu, la mémoire et la destinée. Et Dieu va utiliser la mémoire pour chaque être humain, pour rappeler l'identité primaire que l'on a tous ici. Genèse chapitre 1, versets 26 à 29 et verset 31 par la suite. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Notez les répétitions ici. Il créa l'homme et la femme. Petite parenthèse. Les théologiens disent que juste ce verset-là, il créa l'homme et la femme, ça montre bien que pour au maximum représenter Dieu, il faut l'homme et la femme. Dieu n'est pas masculin. Dieu n'est pas féminin. Dieu... Il faut l'homme et la femme pour représenter parfaitement qui est Dieu. D'ailleurs, il y a plein de versets dans ce testament qui montrent que Dieu est maternel. Jésus va dire que Jérusalem, j'ai essayé de te rassembler comme une poule rassemble ses petits, comme une poule rassemble ses œufs. Dieu est à la fois maternel et paternel. On continue. Dominez, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines et sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. Et là, tous les végans disent « Amen ». Combien c'est heureux qu'il y ait eu la chute juste pour qu'on mange de la viande. Non, non, je rigole. Verset 31. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata. Imaginez-vous, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, notamment les êtres humains, et il constata que c'était très bon. Que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Le point central de ces versets qu'on vient de lire, et même de tout le premier chapitre, c'est les répétitions qu'on a vues. À trois fois, c'est marqué qu'on a été créé par Dieu. Pas à partir d'un Dieu mort, pas à partir d'un conflit. Non, non, Dieu intentionnellement nous a créés. Et par trois fois, c'est marqué qu'on est créé à son image. Et ça, c'est notre identité première. On a plein d'identités secondaires, d'identités qui peuvent nous définir, mais ça, elles sont propres à chacun. Notre culture, notre famille, nos passions, notre orientation sexuelle même. Mais Dieu vient dire ici que non, non, ton identité la plus importante, c'est que tu es créé à l'image de Dieu. Et si cette identité disparaît, si tu ne mets pas ça au centre, alors tu vas le remplacer par toutes sortes d'autres identités en fait, qui vont te décevoir, parce que c'est que des identités éphémères. Ton travail, tu peux le perdre. Ta famille, tu peux la perdre. Tu peux perdre ta santé, tu peux perdre ta richesse. Sauf que l'image de Dieu en toi, tu ne peux pas la perdre. Et ça, c'est ce qui te définit le plus. Tu es créé à l'image de Dieu. Ton identité la plus importante, c'est ça, c'est que tu as été créé à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a différentes pensées sur qu'est-ce que ça veut dire concrètement, mais pour amener un consensus sur trois vérités que l'image de Dieu vient révéler à notre sujet. Premièrement, c'est un classique, mais c'est tellement important, surtout quand c'est révélé dans la Genèse, dans le contexte égyptien et mésopotamien. Le premier point, c'est que j'ai de la valeur. J'ai énormément de valeur. Comme on l'a vu, les êtres humains étaient créés pour être des esclaves. Et encore plus que ça, les animaux avaient plus de valeur que les êtres humains. D'ailleurs, en Égypte, les animaux étaient divinisés. On adorait le cobra, on adorait le crocodile, on adorait le taureau, on adorait la vache, bref. D'ailleurs, c'est intéressant, même la nature était divinisée. Le Nil était un dieu en Égypte. Et Dieu, quand il vient amener les dix plaies d'Égypte, vient confronter tous ces faux dieux, justement. C'est intéressant, vous relirez ça avec ça en tête. Quand Dieu vient transformer le Nil en sang, il vient dire, non, non, le dieu du Nil, en fait, n'est pas un dieu, c'est moi le vrai dieu. Quand il vient amener les grenouilles et quand il vient tuer les vaches, etc., il est en train de dire, les vaches ne sont pas des dieux, c'est moi le vrai dieu. Il vient confronter tous ces faux dieux. Mais à cette époque-là, les animaux étaient adorés, étaient plus importants que les êtres humains. Mais Dieu vient complètement contrebalancer ça. L'humain a plus de valeur que tout le reste de la création. Puis, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les animaux, qu'il faut négliger la nature. Non, non, la nature est magnifique, les animaux sont beaux, mais quand on regarde Genèse 1, c'est super important de comprendre que le point central, ce qui vient en haut du podium, c'est toi et c'est moi. C'est nous, la créature la plus importante dans la Genèse et dans le cœur de Dieu. Stuart Briscoe, à Confession évangélique, explique justement la chose suivante en parlant de la structure de Genèse pour montrer que l'être humain est au cœur de la création de Dieu, contrairement aux mythologies de l'époque. La création progressive qui va de l'informe à la plénitude, en passant par la forme, s'exprime également dans le développement progressif des choses créées, minérales, végétales, animales, jusqu'à l'apogée de la création, l'humanité. Bien que la création de l'univers soit une grande importance de la Genèse, l'accent est mis sur la terre. Et de même, bien que tous les aspects de la création soient importants, l'accent est clairement mis sur l'humanité, dans un sens très réel. La Genèse est l'histoire des relations de Dieu avec l'homme et la femme sur terre. Dieu parle à l'humanité au sujet de l'humanité. Peut-être que tu n'as jamais lu la Bible, mais s'il y a un livre qui peut vraiment t'expliquer qui tu es, c'est la Bible. La Bible parle de toi, de l'humanité, de pourquoi tu es sur cette terre, qu'il y a un Dieu qui t'aime, qui t'a créé, mais qui a eu le péché et qui t'a séparé de Dieu, mais qui a une solution. Et là, je te laisse lire dans le Nouveau Testament, mais on en parlera à la fin. Genèse 1 est révolutionnaire pour l'époque, parce que l'être humain a de la valeur. C'est révolutionnaire pour l'époque, mais aussi pour nous. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les dernières découvertes scientifiques sont incroyables. Combien ont déjà vu le dernier télescope James Webb ? Qui a été créé, je crois, si je ne me trompe pas, au Canada, il y a une photo qui va apparaître. C'est une photo de l'univers qui a été justement utilisée par, qui a été faite avec le télescope James Webb. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou parce qu'on se trouve là-dedans, en fait. On ne sait pas où, mais c'est tellement vaste, l'univers, les étoiles, sachant que le Soleil est une des plus petites étoiles, en fait, et qu'il y en a des milliers, des milliards même, comme ça, dans l'univers. C'est fou, la création. Dans l'eau, un poisson mandarin, je ne savais même pas que ça existait, poisson mandarin, ok, qui a fortement influencé les sortes de dragons qu'on voit en Chine, hein, qui se baladent, etc. Le poisson mandarin a la capacité de briller sous l'eau. Ok ? Peut-être qu'il faudrait l'utiliser pour créer des batteries pour les voitures électriques. Parce qu'il a la capacité d'avoir de l'électricité en lui. C'est incroyable. C'est juste fou. Il peut briller sous l'eau alors qu'il n'a pas de branchement. Le paon, on connaît tous le paon. L'oiseau majestueux. Moi, je trouve ça fou. On va souvent au parc Friedel, à Gaïspou, avec nos enfants. Et souvent, il y a le paon qui est là. Puis apparemment, il déploie ses ailes pour essayer de draguer les demoiselles qui sont là, etc. Mais c'est magnifique. Combien sont d'accord que c'est magnifique ? Dieu trouve ça magnifique aussi. Mais la création qui l'émerveille le plus, c'est toi. Moi, aussi imparfait qu'on soit, ce qui l'émerveille le plus, c'est toi, c'est moi. Psaume 8, versets 4 à 9. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui ? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui ? Or, écoutez ça, c'est fou, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as mis sous ses pieds, tu as mis à ses pieds moutons, chèvres et bœufs. Et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons et tout ce qui suit les pistes des mers. Tu as une valeur inestimable. Et le roi David avait besoin de se le rappeler quand il traversait les moments les plus difficiles. Et certainement un psaume que vous connaissez, le psaume 139, versets 14 à 18. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'eux n'existe. Et là, écoutez ça, les versets qui suivent, c'est les pensées de Dieu envers toi. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que leur nombre est grand. Comment les compter ? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille. Et je suis encore avec toi. Les pensées de Dieu à ton sujet sont innombrables. Sont ce qu'il y a de plus important pour toi, sont ce qu'il y a de plus encourageant pour toi. Si on faisait une pause et puis on avait juste un aperçu de ce que Dieu pense de nous, on tomberait à genoux puis on l'adorerait, c'est sûr. Les pensées de Dieu sont incroyables envers nous. Donc premier point, j'ai de la valeur, beaucoup plus que tout le reste de la création. Deuxième point, ce que l'image de Dieu vient nous apprendre, c'est que je suis aussi un être spirituel. Il y a une différence subtile, mais très importante, quand on voit la création des animaux, Genèse 1, verset 22, et la création de l'humanité en Genèse 28. Ça va apparaître justement. Ça dit que Dieu les bénit, en parlant des animaux, Dieu les bénit en disant, reproduisez-vous. Et pour l'humanité, c'est marqué, Dieu les bénit et leur dit. Et dans l'hébreu, quand on regarde et leur dit, il y a cette intention de rentrer en relation avec l'être humain. Et là, c'est fou, il vient complètement changer ce qu'on pensait à l'époque. À l'époque, les animaux étaient des dieux. Et là, il va dire, non, moi, je ne veux pas rentrer en relation, en connexion avec l'animal, je veux rentrer en connexion avec l'être humain. Je l'ai créé pour être en relation avec moi, pour qu'il soit en relation avec moi. Et tu as un côté spirituel. Et les mythologies disaient que l'être humain était juste matériel. T'es juste là pour nourrir les dieux, pour satisfaire. T'étais juste un robot, en fait, finalement. T'étais juste de la matière qui était construite à partir du sang d'un dieu et puis de la poussière. Et t'avais aucun côté spirituel. Mais la Bible vient complètement détruire ça. Elle dit non. En fait, tu ne peux vivre que si t'es connecté à Dieu. Là, je parle pas de physiquement, je parle spirituellement. Blaise Pascal a dit, on a tous en nous un vide en forme de Dieu. Et ce vide, c'est justement cette connexion avec Dieu. Cette connexion avec Dieu. Dieu veut connecter avec l'homme et la femme. T'as un côté spirituel, qui a été brisé par le péché. Quand tu continues au chapitre 3, tu te rends compte que Dieu a laissé le choix, puis l'homme et la femme ont décidé de désobéir à Dieu, ce qui fait que la séparation a été faite, le péché brise la relation qu'on avait avec Dieu, mais qu'après, Jésus arrive, meurt, vit la vie parfaite qu'on aurait tous dû vivre, il meurt, il ressuscite et il permet que cette relation puisse être récupérée. Et c'est seulement quand tu es connecté spirituellement à Dieu, tu peux re-réaliser l'image de Dieu en toi et voir à quel point c'est la chose la plus importante pour toi, voir à quel point tu as une valeur inestimable, voir à quel point l'amour de Dieu en toi, c'est ce qui te définit le plus. Ton identité primaire, c'est que tu es aimé, c'est que tu es choisi par Dieu, c'est que tu es aimé, c'est que tu es choyé par Dieu, c'est que Dieu a tout mis en place sur terre, toute la création est là pour te bénir. Il t'aime et t'as de la valeur. Et au plus tu vas nourrir ce côté spirituel en ayant une relation avec lui, en obéissant, en lisant la parole, au plus tu vas te rendre compte de ça. C'est comme ça que l'obéissance fonctionne d'ailleurs. Au plus je passe du temps avec Dieu, au plus je l'aime, au plus je me rends compte qu'il m'aime. Donc au plus je vais lui obéir en retour, et plus je vais me rendre compte que mon identité, c'est qu'il m'a choisi. C'est qu'en lui, je sais qui je suis. Et c'est que mon identité est basée sur qui Dieu est. Un Dieu d'amour qui nous a créés et qui nous a tout donné. Donc tu es aussi un être spirituel. Dernier point. L'image de Dieu vient nous rappeler que je suis appelé à régner sur terre. Qui veut régner ici? Yes, qui veut régner, ok? Quand on parle de règne, on pense à quoi généralement? On pense aux guerres, on pense à la violence, on pense à Napoléon. Qui a été voir le film d'ailleurs? Pas encore, non? Il y a le film qui est sorti, ok? Ah, on aurait dû aller le voir ensemble normalement. Hein, mais Napoléon, ok? Un règne qui s'impose par la violence. Est-ce que c'est ce que Dieu avait en tête à ce moment-là? Parce que Dieu appelle l'humanité à régner. Dieu appelle l'humanité à dominer. Pas les êtres humains, mais le reste de la création. Intéressant. Alors qu'aujourd'hui, le règne, c'est on essaie de dominer l'autre être humain. On essaie d'agrandir sa carte géographique pour imposer son règne et montrer qu'on est le plus fort. Sauf que ce n'est pas ce que Dieu pensait. On va juste relire ce que Dieu avait dit. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins en noyau, ce sera votre nourriture. Chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Donc il nous appelle à régner et à exploiter toutes les ressources qu'il a données sur terre. Et d'ailleurs, c'était une mission qui était rattachée à tous ceux qui étaient considérés comme l'image de Dieu sur terre, c'est-à-dire les pharaons, les rois de l'époque. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des statues d'eux-mêmes, ils les plaçaient, et ça, c'était un symbole pour imposer leur autorité. L'image, en fait, être l'image de quelque chose, c'était justement pour être le représentant de cette image. Et du coup, c'est intéressant, parce que les pharaons, les rois faisaient ça, mais par contre, ils faisaient ça en étant égocentriques, en dominant sur les autres. Ils exploitaient la terre, en prenant des gens comme esclaves, et ils disaient, vas-y, exploite la terre pour moi, et que tous les bénéfices me reviennent. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit ici. Dieu est en train de dire, non, il faut t'exploiter la terre pour être le plus grand des serviteurs. Et c'est exactement ce que Jésus va dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les disciples vont dire à Jésus, « Seigneur, est-ce que c'est Jacques qui va envoyer sa mère qui va dire, hey, « Est-ce que je pourrais être à ta droite quand tu seras au ciel ?» Et là, Jésus va leur dire, « Ok, je vais vous expliquer. C'est super, vous avez un désir de grandeur, un désir de régner sur terre, mais je vais vous expliquer le secret pour régner. Sois le plus grand des serviteurs. » Et c'est exactement ça que Jésus, que Dieu avait en tête dans la Genèse quand il dit « règne sur terre, exploite la terre ». Adam avait pour cette mission de cultiver, c'est-à-dire de prendre soin de la végétation, d'avoir des légumes, des fruits. Pourquoi? Pour nourrir les autres. Pas juste pour lui, pas juste pour dominer les autres. Non, c'est exploiter la terre, exploiter les ressources qu'on a pour bénir, pour propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, c'est la mission maintenant qu'on a aujourd'hui depuis Jésus. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore besoin, il fallait attendre que le Messie arrive. Mais on a cet appel, cette responsabilité d'exploiter tout ce qu'il y a et de le mettre au service des autres. Gordon Wenham, un grand théologien de la Genèse, a dit la chose suivante. L'humanité est appelée à régner sur la création comme des rois bénévoles, agissant comme des représentants de Dieu, traitant les autres de la même manière que Dieu les traite. Ça vient nous challenger. En fait, Dieu nous appelle à régner en reflétant directement son règne. On est l'image de Dieu, de la même manière que les statues des pharaons représentaient qui ils étaient. En fait, on est l'image de Dieu pour représenter le règne de Dieu sur terre. Tu es l'image de Dieu. Tu représentes Dieu. Aujourd'hui, mais dans ta famille, quand tu prends le tram, au travail, tu représentes Dieu, tu es l'image de Dieu. Et il y a aussi cette notion de père et fils. Genèse chapitre 5, verset 3, quand on parle d'une généalogie en partant d'Adam. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image. C'est les mêmes termes qui sont utilisés pour parler que Dieu crée l'homme et la femme à son image. Et là, c'est intéressant. Pourquoi ça amène cette notion que l'image de Dieu en nous, c'est les mêmes principes qu'un père, un fils ou une fille qui a l'image de son père en elle ou en lui. Et là, c'est fou. John Walton, encore une fois, il dit la chose suivante. Ce passage met en face qu'être l'image de quelqu'un nous rend capable d'être et d'agir comme lui. Dans une certaine mesure, comme un enfant ressemble et agit comme ses parents. Il dira aussi ensuite, si l'on peut affirmer qu'un bébé est à l'image de son père, Rares sont ceux qui peuvent reconnaître cette image dès la naissance. En fonction de l'image inhérente et de la relation avec le Père, l'image devient de plus en plus reconnaissable au fur et à mesure que l'enfant grandit. Cela ne se produit pas essentiellement d'une manière physique, mais plutôt dans la manière dont l'enfant reflète les attitudes, les expressions et les traits de caractère de son Père. Le texte biblique, en nous offrant cette explication, nous donne la clé que si nous sommes tous à l'image de Dieu, et c'est le cas, nous avons également la capacité de devenir de plus en plus à l'image de Dieu. C'est-à-dire que nous avons été créés avec le potentiel de refléter les attributs divins. Moi, j'ai deux enfants, puis ma plus grande des filles, en ce moment, elle vient nous challenger. Et c'est intéressant des fois, parce qu'on la reprend, et elle a des attitudes qui viennent nous énerver, mais en fait, c'est des attitudes qu'on retrouve chez nous. Et en fait, il a raison en disant que l'image du père dans la fille, c'est là, sauf que nous, des fois, c'est les mauvaises attitudes, c'est les mauvais caractères. Sauf que Dieu est parfait. Dieu est parfait et on est l'image de Dieu. Et tu as la capacité en toi. Au plus tu nourris ce côté spirituel avec ta relation avec le Saint-Esprit vient te transformer et te permet d'être de plus en plus à son image. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul vient le dire dans 2 Corinthiens chapitre 3 et 4. Il va dire, au plus on contemple Dieu, au plus on contemple sa face, nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Il vient le dire. Il dit, mais il faut contempler sa face. Il faut passer du temps dans sa présence, il faut passer du temps dans sa parole, il faut le servir, il faut lui obéir. Et petit à petit, tu commences à ressembler à Jésus, tu commences à aimer comme Jésus, tu commences à pardonner comme Jésus. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament le dit. Le Nouveau Testament amène cette notion que Jésus est le nouvel Adam et qu'il est l'image du Dieu invisible. Et là, c'est super intéressant parce que la Bible nous dit aussi que Jésus a vécu, a accompli toute la loi. Autrement dit, Jésus a vécu le règne que chaque être humain aurait dû vivre. Mais comment Jésus a régné ? En donnant sa vie pour les autres. Ce n'est pas un règne qui s'impose. Les disciples avaient cette vision-là que Jésus allait venir, un messie politique. Ok, il faut les écraser, il faut envoyer le feu ici, ils ne sont pas convertis. Jésus va dire, mais non, je donne ma vie. C'est comme ça que mon règne va s'imposer. C'est comme ça. Et puis, il ne s'impose même pas, il se propose le règne de Jésus. On a une série là-dessus, début d'année dernière. Le règne de Jésus, c'est d'être au service des autres. Et Jésus, le plus grand des rois, avec le plus beau des règnes, qui est d'aimer, qui est de pardonner, qui est d'aller voir celui qui est délaissé, celui qui est rejeté par la société. On est appelé à régner comme Jésus. Maintenant, on peut se poser la question par rapport à Adam. Revenons à Genèse. Adam avait cet appel de cultiver et de garder la terre. Et là, si on prend littéralement, on pourrait se dire, ok, est-ce que Dieu m'appelle à être agriculteur ? Dans ce cas, on aurait dû aller manifester avec eux il y a quelques jours. Mais non, est-ce que Dieu nous appelle à être agriculteurs ? Est-ce que Dieu nous appelle à exploiter la terre de la même manière qu'Adam devait le faire ? Si Dieu a appelé Adam à faire ça, certainement que c'était le premier humain. Okay ? Peut-être qu'il y avait déjà d'autres personnes à ce moment-là, on ne sait pas, vu que c'est un style littéraire. Ça ne nous dit pas que c'était exactement le premier, mais ça dit qu'il représente le premier être humain. Mais ça nous dit aussi qu'il fallait quelqu'un pour cultiver la terre. Donc Dieu a créé Adam et Dieu va créer Ève aussi pour aider Adam dans cette mission d'exploiter la terre au maximum. Donc forcément, il a dû leur donner des dons et des talents qui étaient en emphase avec ça. On n'a pas tous le talent d'agriculteur. Okay, je connais des amis, puis j'en fais partie, qui essayent de prendre soin de certaines plantes, mais je n'y arrive pas. Okay, nous, on prend toujours des plantes grasses parce que c'est celles qui demandent le moins de soins. Et même là, ça ne marche pas. Donc, on n'a pas ce talent-là. Donc, on ne peut pas répondre à cette mission qu'Adam avait. Par contre, le Nouveau Testament, notamment Éphésiens et même Romains, nous dit que Dieu a placé des dons et des talents en toi. Pas forcément de cultiver la terre, mais peut-être de service, d'encouragement, des dons dans l'informatique, des dons, peu importe, des dons de musicien, des dons de communicateur, ou peu importe. Dieu a placé des dons en toi. Et Dieu t'appelle à exploiter ces dons-là et ces ressources-là que Dieu t'a données pour régner comme Jésus a régné. Les dons, c'est juste un moyen d'aimer les gens concrètement. On a vu, on sort d'une série sur les dons ici maintenant, puis je me souviens d'une histoire, je ne sais plus comment la fille s'appelle, c'est une jeune fille de 13 ans qui habitait à Hawaï, qui était surfeuse. Elle avait pour projet de devenir championne du monde, elle voulait faire les championnats du monde, il y a même un film qui a été fait sur elle. Et à 13 ans, elle va surfer, elle va s'entraîner, et tout d'un coup, il y a un requin qui arrive, bam, et qui lui arrache un bras. Tragique histoire. Elle a même gardé la planche avec le trou, etc. Et puis là, son rêve s'effondre. Son rêve s'effondre. Kev, c'est parti d'une famille chrétienne, et puis avec des valeurs vraiment que Dieu est bon. que Dieu prend soin, que Dieu est fidèle. Et elle a traversé toute une période de dépression, puis elle a été encouragée à continuer. Elle a repris la compétition. Elle a repris la compétition, puis petit à petit, elle a commencé en fait à retrouver espoir en servant les autres. Et c'est super intéressant. À un moment donné, elle va dans un endroit où il y a eu un gros tsunami, où il y a des gens qui sont morts, qui sont en train de mourir de faim. Elle arrive, et puis elle a son bras en moins, puis elle est là, elle se sent inutile, et puis elle commence en fait à prendre sa planche de surf et juste à mettre une petite fille dessus, puis à la faire naviguer. Et là, petit à petit, elle se rend compte qu'avec son don, elle peut amener de la joie, elle peut amener l'espérance. Et là, elle a compris une chose, puis elle le dit, puis je n'ai pas les mots exacts, mais ce qu'elle a dit, c'est je me suis rendu compte que la chose la plus importante, ce n'est pas les dons que j'ai reçus par rapport au surf, mais c'est d'utiliser ces dons-là pour aimer les gens. Je trouve ça fou. Elle a repris les compétitions, puis elle est devenue professionnelle, etc. Mais cette notion de « j'ai un don », je vais l'exploiter au maximum et je vais régner avec ce don en aimant les autres, en pardonnant, en ayant la même attitude que Jésus avait. Je vais appeler l'équipe de louange à bien vouloir revenir. On est appelé à régner. On n'a plus à exploiter les dons, les talents que Dieu a mis en nous. Et c'était la mission qui était rattachée à l'image de Dieu. J'ai de la valeur. Je suis un être spirituel. Je dois connecter avec Dieu. Et Dieu m'appelle à régner. Je termine avec ça. Cette notion d'image de Dieu, encore une fois, dans le contexte égyptien, par rapport au peuple de Dieu, ça amène quelque chose de très difficile pour eux. Pourquoi ? Parce que Moïse, en écrivant ça, il est en train de dire que chaque être humain est à l'image de Dieu. Il est en train de dire que les Égyptiens sont à l'image de Dieu. Donc si on reprend nos points, il est en train de dire que les Égyptiens ont de la valeur, que Dieu les aime. Que Dieu les a créés avec amour, par amour, pour être en relation avec eux. Il est en train de dire que les Égyptiens peuvent connecter avec Dieu aussi. Et là, ça vient les challenger. Parce que peut-être que ça te rejoint également, puis tu es en train de te dire, mais moi, en fait, on m'a fait trop souffrir. Dieu veut te dire oui, et je condamne ça. Je condamne ça. Je suis là pour entendre les cris des malheureux. Je suis là pour sécher les larmes de ceux qui pleurent. Mais je veux juste te rappeler une chose, celui qui t'a fait souffrir est aussi à l'image de Dieu. La vengeance m'appartient, mais cette personne, je l'aime toujours. Il y a un théologien allemand qui a vécu les camps de concentration qui était vraiment pour défendre la cause du peuple juif à ce moment-là. Et on lui a posé la question pendant les camps, si tu pouvais rencontrer Hitler face à face, qu'est-ce que tu lui dirais ? Et ce théologien a dit, je lui dirais que Jésus est mort pour ses péchés. Quand même. Il a tué 6 millions de personnes, c'était le diable incarné, c'était... Mais en fait, il s'est rappelé que même Adolf avait l'image de Dieu en lui, qui était complètement déformé, qui était brisé par le péché. Il est en train de dire que si il avait fait ce choix de se repentir, et je pense que ça aurait été très dur pour lui, avec toute la crasse qu'il avait sur son cœur, il est en train de dire, ouais, mais c'est l'image de Dieu. Dieu l'a créé pour être en relation avec lui. De la même manière que le brigand sur la croix a obtenu le salut en se repentant alors qu'il était à deux doigts de s'éteindre, il aurait pu faire la même chose. Ça, c'est dur à entendre, mais ça amène aussi un encouragement, peut-être pour ceux qui ont fait souffrir des gens. Peut-être tu es là, puis tu dis, mais moi, je ne mérite pas la mort de Dieu, j'ai fait trop souffrir. J'ai fait souffrir ma femme, j'ai fait souffrir mon mari, ma famille, des amis, des collègues. J'ai fait trop de mal autour de moi, mais j'aimerais juste encourager, l'image de Dieu reste en toi. Tu as une valeur inestimable. Et Dieu est prêt à te pardonner. Et c'est ça ce qu'il y a de fou quand tu analyses ce que Jésus a fait à la croix, ce qu'on appelle la théologie de la substitution. C'est-à-dire que quand Jésus meurt à la croix, en fait, Dieu ne voyait pas Jésus, Dieu voyait toi et moi en train de mourir. C'est un échange. Ce qui fait que quand tu places ta foi en lui, quand Dieu te regarde, Dieu ne te voit pas toi, Dieu voit Jésus. Il te voit parfait, il te voit saint, il te voit pardonné, il te voit pur, il te voit sans tâche. C'est-à-dire quand tu vas arriver au ciel, si tu as mis ta foi en lui, tous ceux qui n'ont pas mis leur foi en lui, ils ont un gros dossier avec tout ce qu'ils ont fait. Mais toi, tu vas arriver avec un dossier, puis ça sera marqué Jésus dessus. Et tout ce que Jésus a fait dans sa vie, ça t'est attribué. Parce que tout l'héritage qu'il y a en Jésus, il est tien. Et ça, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Puis on va juste prendre ce chant. On va se trouver ensemble, on va prendre ce chant qui nous rappelle qui on est. Je suis choisi, affranchi. Et peut-être t'as jamais fait ce choix-là de reconnecter avec Dieu. Comme on l'a dit, t'as un côté spirituel. Il y a un vide en toi avec la forme de Dieu. Et Dieu est présent. Ça fait 2000 ans qu'on prêche ce message que Dieu peut sauver, que Dieu veut sauver, que tu as l'image de Dieu en toi, tu as une valeur inestimable. Et cette image-là, tu peux la retrouver, tu peux la revivre vraiment quand tu es en Jésus. Alors on prend ce chant et si tu es à l'aise, abandonne-toi à Dieu. Ouvre ton cœur, Seigneur, viens me parler. Seigneur, viens me toucher. Je veux retrouver cette valeur-là. Je veux retrouver cette image que tu as, cette image de Dieu en moi. Seigneur, je te prie pour nous ce matin. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse retrouver cette image-là. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse de nouveau s'abandonner à toi. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Merci pour le regard que tu as sur nous. Et je te prie, Seigneur, d'ouvrir nos yeux pour voir à quel point, Seigneur, on est précieux pour toi. Voir à quel point, Seigneur, notre identité, elle est en toi. Notre identité, notre valeur, elle est en toi, Seigneur. Alors viens nous ouvrir les yeux au nom de Jésus. Amen.
Je suis choisi.
Amen. Je ne sais pas si vous vous sentez plus léger, mais c'est bon quand même. Oh. On est choisi. On est enfant de Dieu. Nos péchés sont pardonnés. Ah, vous pouvez tous partir, voler. Pas voler, voler quelque chose, hein, vous m'avez compris. Hein. Ne transformez pas ce que je viens de dire, s'il vous plaît. Mais c'est tellement bon, tellement bon. C'est tellement bon. Et... ça ne va pas s'arrêter là. Je vais vous demander, vous pouvez vous asseoir si vous voulez, encore une dizaine de minutes de votre attention. On a parlé qu'on est choisi, affranchi, que Dieu nous a donné des dons et des qualités pour mettre au service des autres. Et on va voir un couple, un très jeune couple, qui vient d'arriver à l'épi, je crois, et qui va nous présenter... je vais les faire venir, Klaus et Yolande. On peut les encourager. Oui, c'est un très jeune couple, ok? Alors, il faut savoir que Klaus et Yolande sont missionnaires depuis 11 ans. Hop là, je t'allume. Ils sont missionnaires depuis 11 ans.
Depuis 11 ans en Côte d'Ivoire, mais auparavant, on était 4 années au Sénégal aussi.
D'accord, ok. Et donc, allez-y, vous pouvez vous installer, pardon. Je vais m'asseoir aussi. C'est l'habitude de rester debout. Et donc, en Côte d'Ivoire, et vous avez été missionnaires donc, auprès d'enfants de la rue pour justement leur apprendre l'identité qu'ils ont en Christ. Justement, ils avaient une action à travers de l'association Maison Lem, d'accord, qui est à Abidjan. Alors, je vais essayer de bien le dire, à Yopougon. C'est bon.
Bravo.
Merci. Donc, c'est une maison, voilà, Maison Lem, accueillir et prendre soin des enfants des rues d'Abidjan. Et je vais laisser la place à Yolande, tu nous présentes.
Oui, donc c'est une maison d'accueil de jour. Alors, nous recevons où les enfants viennent. L'équipe s'y rend vers 6h30, 7h du matin. Puis les enfants viennent au compte-gouttes et viennent. Là, vous voyez la maison, elle est un petit peu délabrée. Alors, il faudrait, pas délabrée, mais pas jolie, il faudrait un nouveau coup de peinture. Bon, à côté, il y a une photo avec des enfants. Mais ce jour-là, la propriétaire de la maison était venue avec son frère. Et donc, c'était un petit peu la joie et elle était contente du travail qu'on fait. À côté, vous voyez plein de bassines, des fûts. Alors, les fûts, c'est pour récupérer l'eau de pluie. Les bassines, c'est pour les enfants pour qu'ils puissent se laver et laver leurs habits. Il y a aussi 3 douches de WC. C'est dans une cour intérieure. Il y a de la place là. Et alors donc le matin, quand les enfants viennent, voilà, ils se lavent leurs habits. Puis ensuite, ils ont un petit déjeuner. Et puis après, ils ont des jeux libres ou bien des jeux structurés. Enfin, des jeux. Oui, voilà. Et des jeux organisés, voilà. Alors, il y a différentes activités. Ils peuvent faire de la peinture, du dessin. Et ils ont aussi des soins. Chaque fois, quelqu'un s'occupe de leur petit bobo. Et puis, voilà, c'est plaie à soigner. Mais parfois, quand c'est un petit peu plus grave, on a un accord avec une clinique chrétienne. Un partenariat avec une clinique chrétienne. Et donc, nous pouvons leur envoyer les enfants. Et ils prennent en charge 70% des frais pour les soins qu'ils doivent administrer aux enfants. Donc, il y a aussi toujours l'annonce de la parole de Dieu avec la prière. Et au mois de juin, un certain jour, il n'y avait que des grands qui étaient venus, des adolescents et même des plus grands, des jeunes. Ils étaient à 12 et l'équipe leur a demandé quels étaient leurs projets. Et puis ce jour-là, ce jour-là, ils ont tous dit leur véritable nom.
Parce que dans la rue, chacun a un nom qu'il s'attribue lui-même.
Oui. Leur vraie histoire et leur projet de vie, quels étaient leurs projets de vie. Et entre autres, il y avait le permis de conduire. Et alors est né le projet permis de conduire. Et ils ont eu, ces jeunes, l'équipe a fait une retraite avec eux. Ils les ont gardés toute une journée. Ils ont vécu avec eux, ils ont joué, ils ont lu la parole, prié, enseigné. Ils ont dormi avec eux. Et donc, des liens se sont créés. Et en haut, sur les images, vous voyez des adultes qui jouent avec les enfants. Ils ont exprès acheté des jeux spécifiquement ivoiriens, là, africains. Les Africains doivent connaître les jeux qu'ils ont joués. Donc, pour créer des liens, pour se rapprocher les uns des autres. Et là, en dernier, on a appris vendredi qu'il y a 15 jours, suite à une prédication, 7 enfants ont décidé de vouloir suivre Jésus. Et alors l'équipe s'est dit, on va commencer les cours de préparation au baptême. Deux autres enfants se sont joints à eux. Donc ils sont à 9, les plus grands. Hein.
C'est les grands ados, entre voilà. 15, 16, 17 jusqu'à 19 ans.
Voilà, donc voilà où on en est.
Ok, d'accord. Donc en fait, toutes ces activités permettent de créer des relations, de la confidence. Et je pense qu'il y a une suite après ces relations, ça ne s'arrête pas là, Klaus.
Non, ça ne s'arrête pas là. Si on passe juste notre temps comme ça à causer avec eux, à jouer avec eux et tout, ça n'aboutira à rien au final. Mais si on peut passer à l'image suivante, nous avons des projets. Et bon, ça fait maintenant, la maison LM existe depuis 2020, hein, mais nous avons commencé à travailler en 2011 avec les enfants. Et dans un premier temps, nous avions 7 garçons entre 15 et 17 ans que nous avons pu envoyer en formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle chrétienne à quelques 300 km d'Abidjan. Et ces garçons-là, aujourd'hui, ils ont un métier. Ils sont autonomes, ils ont leur logement, ils sont installés. Et ils ont... Ils ne sont plus dans la rue, ils ne sont plus dans cette situation-là. Et donc maintenant, on revient à la maison LEM. Hein. Le projet que les enfants ont soulevé, le désir de faire le permis, parce que le permis leur ouvre la porte de l'emploi. Avec le permis de conduire, ils peuvent trouver du travail, autrement c'est difficile pour eux. Et alors l'équipe a forgé ce projet permis, on cherchait les financements et ils ont trouvé le financement quelques 1700 euros, ça fait 1 100 000 francs CFA pour permettre à 13 garçons de passer le permis. Et vous voyez là sur les images, c'est un moniteur d'auto-école de l'église qui vient exprès dans cette maison une fois par semaine pour leur faire des cours. On cherche l'équipe est en train de faire les démarches pour obtenir les papiers pour pouvoir les inscrire, certes certificats de naissance et les papiers des parents aussi, pour pouvoir les inscrire pour passer le permis. Et donc, un des garçons, il disait, si j'ai le permis, je pourrais retourner à la maison parce que je peux contribuer financièrement à la vie de la famille.
Pour eux, le permis, c'était important et ça donnait une identité, une importance du coup pour pouvoir travailler.
Oui, le permis pour eux, même ceux de 16 ans, ils peuvent passer le permis moto. Je ne sais pas si vous connaissez ces motos à tricycle là, avec un plateau avec lequel ils peuvent conduire pour livrer les marchandises et tout. Ils peuvent trouver du travail avec ça. Et le permis est vraiment une opportunité pour eux pour s'intégrer dans le tissu de l'emploi.
D'accord. Alors, tout à l'heure, tu parlais, Klaus, si j'ai bien compris, 7 garçons, c'est ça?
Oui.
Que vous avez... Est-ce que tu aurais un témoignage à partager par
oui,
rapport à...
Oui, il y en a un, l'image suivante, si on peut le passer. Ce témoignage s'appelle Valérie. Valérie, c'était l'année des garçons qu'on a envoyés en formation. Il a fait 4 années en formation qualifiante parce qu'il n'avait pas le niveau scolaire pour passer en CAP. Pour le CAP, il fallait avoir un minimum au niveau 5e. Lui, il avait le CE2. Aujourd'hui, il a un niveau 4e parce qu'il a, tout en travaillant, il a suivi les cours de soir, il est arrivé au niveau 4e. Et il est en couple avec un enfant et il a son logement. Il travaille pour une grande société de construction. Il est chef d'équipe. Il a des maçons qui travaillent avec lui. Et c'est un chrétien engagé, baptisé d'eau, baptisé d'esprit. Et il y en a un autre qui est baptisé aussi, mais c'est particulièrement Valérie qui. Et Valérie un jour m'a dit, je crois que Dieu m'appelle pour annoncer l'Évangile.
Amen, amen. Bon travail. Alors du coup, il y a la maison LEM, ok. Oui. Mais vous allez nous présenter aussi par la suite un projet.
Et ça, tu passes à la big diapo suivante, s'il te plaît. Projectionniste. Equisio. Ça veut dire le village de Equisi. Pau, c'est le village. C'est un projet qui est finalement là depuis le début de notre travail en Côte d'Ivoire. Un lieu de vie où les enfants peuvent être scolarisés, où ils peuvent apprendre un métier, où ils peuvent apprendre ce que c'est une vie de famille. Et le projet contient 4 maisons pour 8 à 10 enfants, chaque maison, avec soit un couple, soit 2 mamans qui s'occupent d'eux, qui servent de parents, de substitution, pour que ces enfants puissent grandir dans un contexte chrétien et avec une véritable formation des disciples, qui est difficile à donner quand quelqu'un vit dans la rue. Mais là, cette maison-là, nous avons acheté le terrain en 2018, hein, 4 000 m². Nous avons le titre de propriété, donc on peut construire, on cherche juste les fonds. On a, vous voyez les images, c'est un responsable d'une société de construction qui m'a appelé l'an dernier, il m'avait entendu prêcher sur ce projet-là, et il m'a dit, moi j'ai une société de construction et je voudrais vous construire ce centre. Je lui ai dit, ah mais, j'ai pas l'argent. Il m'a dit, l'argent c'est pas un problème. Entendre quelqu'un, un entrepreneur, dire l'argent, ce n'est pas un problème. On l'a rencontré, on a élaboré le projet. Vous voyez là, c'est très beau, mais pour l'instant, on est en train de chercher les financements.
Alors là, tu parles, il y a donc les 4 maisons, mais je vois une autre photo au milieu. Il y a l'église, un grand bâtiment.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, alors il y a la chapelle, parce que quand tu as une 40aine d'enfants, plus une 20aine de personnel sur place... Et c'est une structure chrétienne, donc la chapelle sert pour d'église, pour le centre, mais aussi il y a des chrétiens autour. Hein. Et la maison la plus grande, c'est une maison communautaire. Au rez-de-chaussée, il y a un grand réfectoire avec cuisine, avec infirmerie et tout. À l'étage, il y a le logement du gérant, de la secrétaire, le bureau de secrétaire aussi. Et une grande salle de bibliothèque. Et au deuxième étage, il y a plusieurs logements pour les visiteurs ou pour des enfants qui grandissent, des jeunes qui ont grandi et qui auront besoin un peu plus d'intimité pour poursuivre leurs études. À côté de ça, on a prévu une structure de potager, 4 potagers pour chaque maison, pour initier les enfants à l'agriculture. Parce que c'est même un projet de l'État actuellement en Côte d'Ivoire d'inciter les jeunes de se former en agriculture pour arriver à une autosuffisance alimentaire pour le pays. Donc c'est un avenir aussi pour les jeunes, la formation à l'agriculture, où on a un poulailler qui est prévu aussi et un atelier de menuiserie. Mais finalement, le jardin aussi et le poulailler va servir pour nourrir ceux qui habitent dans le centre.
Alors, j'aime bien Klaus parce qu'il parle au présent, mais vous avez bien compris, ce n'est pas encore construit. D'accord ? Ce n'est pas non. du tout construit.
Et il faut le personnel, il faut les parents d'accueil. On prie pour ça depuis le début.
Et il faut de l'argent.
Que Dieu suscite des parents d'accueil.
Alors, si vous voulez les suivre, les accompagner, bien sûr, ils ont une adresse mail, maison.lem2022@gmail.com. Il y a aussi le Facebook. Et si vous voulez être participant aussi, il y a la prière, bien sûr. Mais il y a aussi la participation financière. Donc, vous avez la possibilité d'aller sur Hello Asso. Vous pouvez prendre le QR code pour faire un don en ligne. Mais il y a aussi tout le conseil d'administration de l'association qui sera présent dans le hall d'accueil pour vous expliquer, vous donner encore un peu plus de détails sur ce qui va être mis en place, les étapes, et puis vous expliquer aussi l'association. Et une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est prier pour eux si vous le voulez bien. Vous êtes d'accord ? Alors, on peut le faire tous les jours, mais on va le faire ce matin. Et je vais demander à Michel si tu veux bien venir pour prier pour eux. On va se lever, s'unir dans la prière ensemble.
Merci beaucoup, Seigneur, pour ce témoignage de Klaus et de Yolande qui vient absolument illustrer le message de ce matin. Merci de leur permettre de servir Abidjan et toute cette région de Côte d'Ivoire pour permettre à des enfants de retrouver leur identité. Merci parce qu'ils trouvent de la rue, ils trouvent une maison, mais ils trouvent aussi leur place dans ta maison. Merci de conduire Klaus et Yolande, de conduire l'association. Merci pour l'Église aussi qui soutient de manière variée et de manière concrète et pratique des œuvres, des actions qui manifestent un règne dans le service, dans le don de soi, dans l'abnégation. Alors que beaucoup prennent leur retraite et coulent une retraite tranquille, il y a des hommes et des femmes qui te servent avec toute leur force, avec leur cœur. Alors merci pour l'exemple qu'ils sont pour chacun d'entre nous. Bénis Klaus et Yolande, bénis tous leurs collaborateurs, leurs partenaires, là-bas sur place aussi, les équipiers. Merci, parce qu'on a l'impression que c'est juste une petite goutte d'eau dans un océan de besoins, mais pour ces enfants-là, c'est toute une différence. Et à leur tour, ils vont servir, ils vont se donner et ils vont contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Et nous te bénissons pour cela. Amen.
Amen. Amen. Amen. On peut les applaudir et les encourager. Je trouve que c'est un encouragement énorme parce qu'il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Tant qu'il y a le cœur qui bat et le souffle, il n'y a pas d'âge. Alors je vous remercie vraiment de votre attention, je remercie les internautes. Je vous rappelle que ceux qui le souhaitent, ceux qui les désirent, il y aura des personnes près du piano pour le temps d'écoute et prière. Nous vous souhaitons vraiment un agréable dimanche, une très bonne semaine, de tenir fort ce qui a été dit ce matin. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes rachetés. Amen et bon dimanche à tous.